Bonjour à tous, merci d'être avec nous, bienvenue sur le 98.5 FM, la radio du sud de Toulousain, et nous allons parler histoire, nous allons parler mémoire, nous allons parler jeunesse d'une certaine façon. Et pour en parler, je suis avec deux invités, Sandrine Flouros, bonjour Sandrine.
Bonjour Bruno.
Et Jean-Jacques Mirassou, bonjour Jean-Jacques.
Et bonjour à tous.
Jean-Jacques Mirassou, vous êtes le président de l'ANACR, c'est quoi ?
Association Nationale des Anciens Combattants et amis de la résistance à l'échelon au Garonnais en ce qui me concerne.
Et en plus, vous avez à votre palmarès, je vais le dire comme ça, une date importante, ce qui est celle du 27 mai.
Absolument, puisqu'en tant que sénateur, c'est moi qui ai initié cette date, qui correspond, puisque c'était le 27 mai 1943, à la première réunion du Conseil national de la résistance, présidée par Jean Moulin. Et fort du constat que dans le panorama des dates mémorielles, rien n'évoquait d'une manière très précise la résistance. Et c'est la raison pour laquelle bon nombre d'associations, depuis plus de 50 ans, réclamaient cette date-là. Quelques prédécesseurs avaient essayé de s'y frotter. Je pense à Philippe Seguin ou Maxime Grémetz. Ils avaient échoué. Et moi, j'ai réussi grâce au soutien du groupe auquel j'appartenais au Sénat.
Mais ça ne s'est pas fait tout seul.
Non, ça ne s'est pas fait tout seul, parce que, encore une fois, il y avait eu deux, voire trois échecs avant, mais il se trouve qu'à l'époque où j'ai présenté cette proposition de loi, le président du Sénat s'appelait Jean-Pierre Bel, et le président de la République s'appelait François Hollande. Ça a quand même facilité un peu les choses. Et puis, il faut bien le dire, nous étions majoritaires au Sénat. Donc, ce qui nous apparaissait comme une évidence a été partagé par le plus grand nombre. Et depuis lors, cette date est inscrite dans le calendrier mémoriel comme une date nationale. Et logiquement, tous les 27 mai, dans les communes, dans les chefs-lieux de canton, a lieu une cérémonie pour se rappeler de ce qu'a été la résistance et les valeurs qu'elle portait.
Alors, il y a plusieurs dates commémorielles en France pour parler de ces événements tragiques que sont le conflit armé et que sont les anciens combattants. Tout le monde connaît le fameux 11 novembre, tout le monde connaît le 8 mai qui disparaît de plus en plus malgré tout. Il y a le 19 mars pour la guerre d'Algérie et le 27 mai donc pour la résistance, c'est bien ça.
Il y en a quelques-unes supplémentaires qui commémorent la rafle du Veldiv, un tout autant d'événements qui ont jalonné l'histoire française. Et souvent dans des conditions du reste dramatiques. Et je tiens à préciser qu'un historien qui est relativement célèbre avait initié, soutenu par Valéry Giscard d'Estaing, une entreprise qui consistait à gommer toutes ces dates pour ne retenir, comme ça se fait aux USA, qu'une seule date mémorielle, donc un Memorial Day. Ça avait soulevé un tollé quasi général de l'ensemble du monde combattant. Et cette idée avait été fort heureusement abandonnée.
C'est pour ça que je vais me tourner vers vous, Sandrine, maintenant, parce que ce dont on parle aujourd'hui, on parle des anciens combattants, il n'y en a plus beaucoup, il y en a même de moins en moins. Quel est, à votre avis, vous qui vous occupez au Conseil départemental de la jeunesse et de la transmission de la mémoire auprès de la jeunesse, entre autres, quel est l'intérêt de continuer à se souvenir de ces dates-là ?
L'intérêt, il est majeur. Il est de ne jamais oublier l'histoire, ses leçons de l'histoire, et de préparer l'avenir, et surtout d'éveiller les consciences des jeunes à ce que veut dire la paix. Quand on commémore les dates que vous avez citées, et moi je suis assez fière et ravie de voir que sur mon territoire, les jeunes s'impliquent de plus en plus à travers à la fois les écoles primaires, mais aussi les collèges, en fonction bien évidemment de la volonté des enseignants. Je vois que les jeunes prennent conscience de ce que signifient ces dates. Et ce ne sont pas des dates anodines, hein, ce sont des dates où le cessez-le-feu a été proclamé. Et donc aujourd'hui, et je le vois depuis une vingtaine d'années, l'évolution. Quand on participait il y a une vingtaine d'années aux commémorations, on était plutôt taxé de pro-guerre, de va-t-en-guerre, de pro-militaire. Alors qu'en fait, aujourd'hui, ces moments-là sont des moments de recueil, d'apprentissage de l'histoire, des leçons de l'histoire, pour que ça ne se reproduise plus. Et donc, nous travaillons de manière extrêmement concrète à la paix. Et donc, d'éveiller les consciences des jeunes à ce qu'a été l'histoire pour ne plus qu'elle se reproduise, donc travailler aux conditions de la paix, c'est aujourd'hui essentiel.
Comment vous y prenez pour faire ça? Parce que c'est pas simplement aller défiler avec un drapeau, déposer une gerbe sur un monument aux morts et écouter un discours d'une personne qu'on connaît à peine, avec le nom de gens dont on ignore tout pratiquement dans l'histoire. Comment vous faites pour faire passer ce message?
Alors c'est le travail en amont que l'on fait avant effectivement ces cérémonies commémoratives. C'est le travail que font un certain nombre d'enseignants très impliqués, pas forcément uniquement des enseignants d'histoire, mais des enseignants qui prennent conscience que la société aujourd'hui et le monde aujourd'hui est en train de basculer. Et donc, c'est ce travail de prise de conscience de la nécessité d'avoir des comportements respectueux de la différence, des comportements au quotidien qui permettent de comprendre les enjeux d'aujourd'hui. Et donc, c'est ce travail pédagogique qui est fait entre à la fois l'institution éducative, le ministère de l'Éducation, les collèges, les écoles, mais aussi les institutions comme le conseil départemental et les associations essentielles comme celle que préside Jean-Jacques Mirassou, l'ANACR. C'est ce travail partenarial pour éveiller les consciences à la nécessité de créer les conditions de respect et de la paix.
Jean-Jacques, vous, au sein de vos associations d'anciens combattants, c'est aussi votre rôle de faire perdurer, je dirais, cet esprit résistant, je vais le dire comme ça, cet esprit combattant contre les dangers qui pourraient se présenter à nous dans le futur, peut-être?
Alors, je serais tenté de dire que malheureusement, ce qui se passe actuellement sur le plan national et international plaide en faveur de la prise de conscience que vient d'évoquer Sandrine Floreus à l'instant. En France, l'extrême droite hausse le ton. C'est déjà fait dans beaucoup de pays en Amérique du Sud. Et il n'y a pas plus tard qu'il y a 5 ou 6 jours, à l'occasion d'une manifestation qui a eu lieu à Lyon, il y a des gens qui ont opéré le salut nazi. Donc ça veut dire que si on fait un parallèle avec ce qui se passait dans les années 30, à la fois sur le plan national et international, et ce qui se passe maintenant, il faut se donner les moyens d'éviter que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et c'est de ce point de vue-là que la mission qui est la nôtre, eh bien, ça consiste, comme l'a dit Sandrine, à provoquer une prise de conscience. Alors, pas seulement à l'égard du devoir mémoriel, mais une prise de conscience active pour agir. Quand de jeunes résistants sont rentrés véritablement dans la résistance par rapport à Vichy ou aux nazis, eh bien, ils ont agi vite, bien, avec courage et lucidité.
Oui, parce qu'il faut quand même rappeler que tous ces résistants étaient tous des jeunes hommes qui avaient entre 15 et 20 ans.
Il y en a beaucoup qui avaient entre 15 et 20 ans, pas seulement, pas uniquement.
Après, les cadres étaient un peu plus âgés.
Oui, mais quand on prend, par exemple, une des figures emblématiques de la résistance, je veux parler de Guy Mocquet, il avait à peine 17 ou 18 ans. En Haute-Garonne, il y en a 2 qui ont été fusillés pour fait de résistance à la prison Saint-Michel. Le père et le fils de Vic, à un quart d'heure d'intervalle. Le fils avait à peine 20 ans. Donc ça veut dire que cette prise de conscience qui s'opérait par la force des choses, en quelque sorte, il y a 80 ans, doit s'opérer maintenant aussi pour éviter le pire, pour éviter à notre pays qu'il se reproduise les mêmes choses que ce qui se sont passées il y a 80 ans.
Parce que Sandrine, vous pensez qu'aujourd'hui, les jeunes ont oublié, n'ont pas connaissance, n'ont pas conscience des tendances qui se mettent en place?
Alors, il y a 2 ans, on a travaillé avec le Césaire, qui a fait un sondage auprès de 2000 jeunes de l'Occitanie pour leur demander effectivement ce que voulait dire la résistance, ce que voulait dire le mot laïcité. Et on s'est aperçu que de nombreux jeunes pensaient que l'extrême droite, comme vient de la citer Jean-Jacques Mirassou, n'était pas un danger pour les libertés publiques. Donc, quand on arrive à ce constat, eh bien, on crée des espaces de réflexion et d'écoute des jeunes. Je crois que le préalable avant la prise de conscience et avant de transmettre un certain nombre d'éléments factuels sur l'histoire, c'est de permettre la création d'espaces où les jeunes vont pouvoir venir et vont s'exprimer en toute liberté. Et c'est une fois qu'ils s'expriment et qu'ils nous font part de la façon dont ils voient la société, de la façon dont ils voient le monde, que l'on peut commencer à travailler avec eux en leur expliquant ce qu'a été l'histoire, ce qu'ont été les jeunes qui ont résisté, et le Conseil national de la résistance. C'est pour ça que le travail avec l'ANACR et le Conseil départemental de la Haute-Garonne, il est essentiel avec les jeunes, c'est de travailler sur la réalité, non seulement de ce qu'a été le Conseil national de la résistance, l'exemplarité d'un certain nombre de jeunes qui sont rentrés en résistance, mais comment aujourd'hui on crée les conditions pour que les jeunes aient à la fois conscience de ce qu'est notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, et comment on peut leur donner les moyens de concrétiser ce que veut dire cette devise républicaine. Et c'est ce qu'on a fait au Conseil départemental, puisque depuis quelques années est créé cet espace de réflexion, pardon Jean-Jacques, qui s'appelle le Conseil départemental des jeunes, et qui permet à des jeunes qui sont à la fois des collégiennes, des lycéennes, des jeunes travailleurs, donc avec une grande diversité de statuts très différents et de diversité géographique, à des jeunes de venir discuter, dialoguer et d'échanger sur ce que veut dire liberté, égalité et surtout maintenant fraternité.
J'ajoute que le département de la Haute-Garonne, de ce point de vue-là, et ça ne date pas d'hier, est un département exemplaire. C'est un département qui répond présent chaque année au concours national de la résistance et de l'importation. Nous avons des outils fantastiques, par exemple le musée départemental de la résistance et de l'importation. Il y a des initiatives qui sont prises au niveau de l'institution, la dernière en date d'ailleurs étant la relation partenariale qu'on a nouée avec le musée, le département et l'ANACR, qui va nous conduire à cheminer jusqu'au 26 mai sur cette thématique-là, en alertant un certain nombre de collèges et de collégiens. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs si ça se passe comme ça, parce que la Haute-Garonne a été un haut lieu de la résistance. Je tiens à rappeler au passage que Toulouse et la Haute-Garonne se sont libérés eux-mêmes. Ce ne sont pas les forces alliées qui ont libéré le département ni la ville de Toulouse. Ça mérite d'être souligné. Mais encore une fois, ce qu'on essaye d'insuffler, c'est bien sûr la connaissance réelle de ce qui s'est passé. Et plus on avance d'ailleurs dans le temps, et plus les documentaires qu'on peut voir sur un certain nombre de chaînes télévisées sont parfaitement éloquents par rapport à des choses que beaucoup de gens ignorent. Récemment, il y a eu un reportage sur Mauthausen, qui est un reportage exemplaire et très illustratif de ce que c'était que le nazisme qui sévissait en Europe. Donc, tout un tas de choses qui font que les conditions, je le pense, sont réunies pour que la démarche que vient de décrire Sandrine prenne véritablement corps et qu'ensuite ça fasse boule de neige. Et puis nous, quand on aura initié ça, ben on considérera que notre travail a été fait et aux jeunes de prendre en main leur propre avenir sur cette thématique-là comme sur d'autres.
Donc l'idée, si j'ai bien compris, c'est de porter cette réflexion auprès des jeunes pour qu'eux-mêmes se l'approprient et agissent en conséquence.
Oui, moi je trouve que ce qui serait intéressant, et c'est un échange qu'on avait eu avec Jean-Jacques Mérassou, c'est que demain les jeunes puissent à nouveau écrire une nouvelle charte en parallèle de ce qui avait été fait au Conseil national de la résistance il y a maintenant quelques décennies. C'est comment voient-ils la société de demain ? C'est ça qui est intéressant. Et ce qui est rassurant sur les jeunes, en tout cas qui viennent s'exprimer au sein du Conseil départemental des jeunesses en Haute-Garonne, c'est qu'ils ont une véritable volonté d'inclusion et qu'ils donnent corps à ce que veut dire solidarité. On nous montre beaucoup aujourd'hui des jeunes qui fracturent, qui fractionnent la société, mais la majorité des jeunes, et elle est souvent malheureusement silencieuse, d'où l'importance de créer ces espaces d'expression, la majorité des jeunes que nous rencontrons, ils ont envie de solidarité, et ils la font vivre au quotidien. Donc ça, c'est plutôt un point positif et rassurant sur lequel il faut qu'on s'appuie, et notamment les jeunes collégiens qui vont de 12 à 15 ans, on s'aperçoit que ces jeunes-là sont vraiment au quotidien dans le respect des différences et dans la volonté de travailler sur une société très inclusive.
Inclusive, cosmopolite, parce oui. Qu'aujourd'hui, justement, la différence par rapport à ce qui s'est passé il y a plus de 80 ans, c'est que nous sommes complètement connectés au reste du monde. Il se passe deux choses par rapport à ça. Les conflits extérieurs sont importés directement chez nous, d'une part, et deuxièmement, les idéologies et les intentions extérieures sont aussi importées chez nous.
Absolument, et d'ailleurs, pas plus tard que samedi dernier, on a organisé plusieurs tables rondes au musée départemental de la Résistance, avec des jeunes qui font partie du Conseil départemental jeunesse, et on a laissé libre cours à l'expression, et les thématiques qui sont ressorties, sont des thématiques qui ont trait aux libertés individuelles, à la prééminence de l'intérêt général par rapport à la somme des intérêts particuliers. On a été étonné que l'écologie ne surgisse pas parmi les thèmes. Pourtant, c'est un événement puissamment politique, parce que l'écologie, on pourra en parler une autre fois, dépend également de choix qui sont eux-mêmes très, très, très politiques. Et donc, ça veut dire que, comme vient de l'évoquer Sandrine, notre démarche, c'est de donner la clé, je n'ose pas dire intellectuelle, mais de réflexion à ces jeunes-là, pour qu'ils puissent ensuite se donner les moyens eux-mêmes d'appréhender dans les meilleures conditions possibles les défis auxquels ils seront confrontés. Et donc, c'est tout l'engagement que nous avons pris en partenariat avec le conseil départemental. Et notre ambition, c'est celle-là, uniquement celle-là. Et puis, ensuite, les jeunes vivront en quelque sorte leur propre destin. Mais nous, on aura fait au préalable notre devoir d'alerte.
Peut-être un autre thème qui aujourd'hui est plus que d'actualité, c'est la question de l'égalité entre les hommes et les femmes qui fait partie de la cohésion sociale indispensable à toute société. C'est un thème qui, pour la plupart des jeunes, là aussi, est un thème qui leur est naturel. L'égalité de droit entre les hommes et les femmes, pour eux, est une évidence et est un combat du quotidien. Globalement, les jeunes que nous rencontrons, très majoritairement, sont des jeunes qui sont favorables naturellement à la question de l'égalité. Et donc, quand on parle de la fraternité et de cet esprit de résistance vis-à-vis des idéologies assez noires qui reviennent, on est plutôt rassuré de voir que les jeunes majoritairement ont des envies d'inclusion, de solidarité et d'égalité.
Alors, petite question piège à l'un ou l'autre, peu importe. Aujourd'hui, est-ce que l'environnement institutionnel et l'environnement politique favorisent cette réflexion ?
Je serais tenté de dire d'une manière très forte, sur le plan départemental et local, oui, parce que y a une histoire, il y a des habitudes, il y a un savoir-faire. Sur le plan national, c'est plus compliqué. Et je fais partie de ceux qui, au niveau de l'ANACR, avons décidé de faire en sorte que cette cause de l'esprit de résistance devienne une véritable cause nationale. Et c'est la raison pour laquelle, en temps utile, nous écrirons d'une part au ministère de l'Éducation nationale et en même temps au ministère de la Défense. Le mot « résistance » est puissamment galvaudé actuellement. N'est pas résistant qui veut. Donc, nous, on veut réhabiliter ce mot. Ce que vient d'évoquer, par exemple, Sandrine, me paraît terriblement important, l'égalité homme-femme. Sachez que sur plusieurs centaines de gens qui ont eu l'honneur d'être compagnons de libération, 6 femmes seulement. Qui pourrait croire que seulement 6 femmes méritaient cette distinction ? C'est la raison pour laquelle, du reste, à l'échelon garonnais, avec toutes les associations avec lesquelles on travaille, on va aussi envisager, dans les semaines qui arrivent, de dédier quelque chose aux femmes en résistance.
Je crois que, pour répondre, Bruno, à votre question qui est importante, il faut, pour réhabiliter globalement la question de l'engagement citoyen, la question de l'engagement public, la question de l'engagement politique, il faut aussi retrouver la confiance avec les citoyens et avec les jeunes en particulier. Et pour retrouver la confiance, il faut aussi que le personnel politique, en tout cas ceux qui s'engagent publiquement, il y a une concordance et une adéquation entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Et qu'aujourd'hui, s'il y a une telle défiance vis-à-vis du personnel politique, à tout niveau, et quand il y a un hiatus, et quand certains disent et font le contraire de ce qu'ils disent, eh bien ça crée de la défiance et ça nourrit le populisme. Et ça nourrit le tous pourri. Et ça nourrit le tous corrompu. Et donc la montée des extrêmes en général, elle se nourrit de cette différence entre la conviction qu'on affiche et le comportement que l'on a. Et je crois que une grande leçon du 27 mai, dont parle Jean-Jacques Mérassou, c'est la concordance de cet esprit de résistance entre l'exemplarité des comportements et des convictions. Les gens avaient des convictions, ils avaient un comportement exemplaire pour défendre leurs convictions. Et aujourd'hui, c'est peut-être un peu ce qui nous manque.
Paul de Bauge, éminent résistant au Garonnais que j'ai eu l'occasion de fréquenter jusqu'à sa mort, il est mort, il avait plus de 100 ans, il est enterré pas loin d'ici. En parlant des politiciens, je le mets entre guillemets d'une manière un peu péjorative parce que c'est la réalité et ça rejoint ce que vient de dire Sandrine, parler des bavards d'avant-guerre. Voilà ce qu'on ne veut plus entendre ni voir, les bavards. Il faut avoir une concordance entre ce qu'on pense, ce qu'on fait et ce qu'on dit.
Pour terminer, pour conclure un petit peu de cet entretien, si je résume moi très brièvement ce que j'ai compris de notre échange, c'est que il faut redonner aux jeunes, à l'ensemble de la population, les valeurs qu'avaient celles des résistants à l'époque. Quelles étaient ces valeurs qui étaient partagées pour que eux puissent aujourd'hui agir en conséquence, en ayant connaissance de l'histoire, mais en voyant aussi se dérouler devant eux l'avenir, c'est ça ?
Complètement. Complètement. Remettre au goût du jour ces valeurs collectives, ce sens de l'intérêt général qui prime sur l'addition des intérêts individuels. On est quand même dans un monde aujourd'hui avec ces nouvelles technologies, avec ce téléphone qui est complètement, j'allais dire, gravé dans les mains de, pas que des jeunes d'ailleurs, hein, toutes les générations, qui exacerbe l'individualisme. Et qui exacerbe aussi l'absence de lien. Moi, ce qui me frappe aujourd'hui, et c'est un travail auquel il faut qu'on s'attelle tous quand on est engagé dans la vie de la cité, c'est ce travail à nouveau de retisser du lien humain entre les uns et les autres. Et les nouvelles technologies, à cet égard, ne nous aident pas beaucoup. Donc, à la fois, vous le dites dans votre conclusion, Bruno, c'est redonner un vrai sens aux valeurs collectives, aux valeurs de notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, et retisser concrètement du lien, retisser du lien entre les hommes et les femmes, recréer des espaces de rencontre. Et c'est comme ça qu'on arrivera à recréer de l'espoir et de l'espérance pour cette jeunesse.
Jean-Jacques Mirassou, si vous avez un vœu pieux à formuler, ce serait lequel ?
Que la jeunesse se décide à prendre en main son propre destin.
Si c'était une nuit comme on n'en connut pas depuis 100 000 nuits. Une nuit de fer, une nuit de sang, une nuit. Un chien hurle. Regardez bien Jean de l'enfer, regardez-le. Sous son manteau de bronze vert, le lion tremble. Les hommes avaient perdu le goût de vivre et se foutaient de tout. Leur mère, leur frangin, leur nana, pour eux c'était du cinéma. Le ciel redevenait sauvage, le béton bouffait le paysage d'alors. Les loups étaient loin de Paris, en Croatie, en Germanie. Les loups étaient loin de Paris, j'aimais ton rire, charmante Elvire. Les loups étaient loin de Paris. Mais ça fait ses 50 lieues dans une nuit à queue-leu-leu. Dès que ça flaire une ripaille de mort sur un champ de bataille. Dès que la peur hante les rues, les loups s'en viennent la nuit venue. Alors, les loups ont regardé vers Paris, de Croatie, de Germanie. Les loups regardent vers Paris, tu peux sourire, charmante Elvire. Les loups regardent vers Paris. Et v'là qu'il fit un rude hiver, sans congestion en fait d'hiver. Volets clos, on claquait des dents, même dans les beaux arrondissements. Et personne n'osait plus, le soir, affronter la neige des boulevards. Alors, De loups sont entrés dans Paris, l'un par ici, l'autre par Ivry. De loups sont entrés dans Paris, oh tu peux rire, charmante Elvire. De loups sont entrés dans Paris. Le premier n'avait plus qu'un œil, c'était un vieux mâle de Crivoy. Il installa ses 10 femelles dans le maigre square de Grenelle. Et nourrit ses 200 petits avec les enfants de Passy. Alors, sans loups sont entrés dans Paris, soit par ici, soit par Ivry. Sans loups sont entrés dans Paris, cessez de rire, charmante Elvire. Sans loups sont entrés dans Paris. Le deuxième n'avait que 3 pattes, c'était un loup gris, des Carpates, qu'on appelait carême prenant. Il fit faire grâce ses enfants et leur offrit 6 ministères et tous les gardiens des fourrières. Alors, les loups, oh, oh, les loups ont envahi Paris. Soit par ici, soit par Ivry, les loups ont envahi Paris. Cessez de rire, charmant Elvire, les loups ont envahi Paris. Attiré par l'odeur du sang, il en vint des mille et des cents, Perrecarousse, Liesse et Bombance, dans ce foutu pays de France. Jusqu'à ce que les hommes aient retrouvé l'amour et la fraternité. Et alors, les loups, oh, oh, les loups sont sortis de Paris. Soit par ici, soit par Ivry, les loups sont sortis de Paris. Tu peux sourire, charmante Elvire, les loups sont sortis de Paris. J'aime ton rire, charmante Elvire, les loups sont sortis de Paris. Les loups, les loups.